19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne du lundi au vendredi de 19h à 20h au menu ce soir. On parlera football bien sûr avec la rencontre entre la Bosnie-Herzégovine et l'équipe de France. Un mot également sur la Belgique et les Pays-Bas, plus puissants que la France. On y reviendra en tout cas avec nos consultants du jour et puis notre invité Majoub Jaradi qui est avec nous ce soir.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
En tout cas c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour, sur
merci.
Notre le micro.
Bah, je vous remercie de me recevoir, c'est gentil.
Plaisir partagé. Les consultants du soir, j'en ai deux, mes précieux. L'expérience, le savoir, monsieur Yacine Boili, comment ça va?
Ça va Claude, ça va très bien, hein, il fait très beau, hein, donc tout va bien.
Plus important, Abdel, comment ça va?
Ça va très bien, bonsoir tout le monde, très content d'être là et impatient que ça débute comme toute la semaine, comme tu l'as si bien dit en introduction.
Il y aura de quoi faire, là, vous êtes deux, donc là, allez-y, hein.
Il n'y a pas de souci.
Allez, on enchaîne.
Time Sport, le ras-le-bol.
L'équipe de France se déplace à Sarajevo pour y affronter la Bosnie, certainement l'adversaire le plus coriace du groupe.
Bah, je ne sais pas si c'est le plus coriace du groupe. On a vu contre le match contre l'Ukraine au Stade de France où les Français, où les Bleus ne sont pas du tout arrivés à se défaire de cette équipe ukrainienne. Au jour d'aujourd'hui, dans le contexte Covid-19, je pense que toutes les nations se valent. Donc, ça va être un match très compliqué pour les Bleus et aussi pour l'équipe bosniaque ou bosnienne. Je ne sais pas comment on
le terme. Bosniaque.
On dit bosniaque.
Bosniaque.
Et bosnien, bah ouais. Donc, c'est la richesse de la langue de Molière. Voilà, donc ils sont obligés de, parce que la prestation contre le Kazakhstan, quand même, qui n'est pas l'ogre qui fait peur, l'a laissé peut-être tous les observateurs à leur fin. On a constaté une équipe de France où il manquait vraiment cette envie de gagner, hein, cette grinta, on ne l'a pas senti. Voilà, donc il y a une occasion qui se présente dans un. Ils ont la chance de jouer dans un stade qui est vide, parce que d'habitude, en Bosnie, c'est vraiment un vrai chaudron. Ils ont les Mbappé, Griezmann et consorts, ils ont l'occasion de se racheter. Et je pense que ça va être un match à 6 points.
Justement, Abdel, est-ce qu'on va avoir l'équipe de France que l'on a vue la semaine dernière? Mi fugue mi raisin, comme l'a dit Yacine au Kazakhstan, malgré la victoire.
Mi fugue mi raisin, c'est des raisins secs, on va dire avariés.
Bon, on s'est imposé. Il y a quand même eu 4 points où ouais, on va retrouver.
Pour le ressenti. Quand on voit l'affiche, ça a tout l'air du match piège. C'est vrai que il y a une chance qu'il n'y ait pas les supporters comme l'a dit Yacine, parce que en général c'est des ambiances assez chaudes et ça ils sont réputés pour ça. Le problème de l'équipe de France, c'est que ils ont 4 points aujourd'hui. Ils ont pas encore perdu, mais c'est difficile pour eux de jouer les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Pour moi, tant que t'as pas passé la compétition qui arrive, déjà l'Euro aurait dû être passé. On aurait dû jouer ces qualifications bien après. Covid oblige, ça a dû être décalé. Donc je pense que déjà ils ont du mal à se mettre dans la tête cet objectif-là, que voilà, c'est des matchs pour jouer les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Après. Le problème avec l'équipe de France, c'est que ils sont souvent favoris et même ils ont le statut de champion du monde, mais dans les groupes où ils tombent, c'est une équipe qui est forte et qui est amenée à avoir le ballon, chose que Didier Deschamps n'aime pas forcément. Pourtant, il a les joueurs pour. Et ce que je trouve dommage, c'est que durant ces matchs-là, on n'essaye pas de le voir tenter pas un jeu de possession, mais peut-être quelque chose de plus agréable à voir pour le public. Et après, si jamais on arrive en compétition officielle, revenir à ses fondamentaux qui sont gagnés, peu importe la beauté. Voilà, on serait d'accord. Mais je pense que là, on reste un peu sur notre faim à chaque fois en se disant que ils tentent rien, ils tentent pas grand chose. Quand on voit la composition, par exemple, on voit que Ben Yedder n'a pas encore eu sa chance là durant les deux matchs. Je trouve ça dommage parce qu'il prend des joueurs.
Il ne les fait pas jouer.
Voilà. En fait, Ben Yedder.
Ça, c'est la faute de Ben Yedder. Il aurait pu choisir la Tunisie.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est la faute à Ben Yedder. Il savait pertinemment qu'il n'allait pas jouer.
Non, mais ce que je te dis. Je suis d'accord, Yacine. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu prends des joueurs sachant que tu as déjà des titulaires qui vont remplacer les titulaires. Je m'explique. On sait que Giroud est l'attaquant numéro 1 pour le moment. Et ce soir.
L'attaquant numéro 1 dans la tête de Didier Deschamps.
Oui, c'est ça.
Parce que si on prend la hiérarchie footballistique et sportive.
Oui.
Je pense que Ben Yedder est deux temps, voire trois temps au-dessus de Giroud.
Toujours est-il qu'en équipe de France, l'attaquant numéro 1 est Olivier Giroud.
Aux yeux de Deschamps. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est lui le sélectionneur. C'est pour ça que le meilleur joueur du monde, enfin, le meilleur attaquant actuellement au monde, Karim Benzema, ne figure pas dans la liste de Deschamps.
Mais Abdel, pour continuer.
Même si on l'a annoncé aujourd'hui qu'il était de retour pour jouer le match ce soir.
Non, pour revenir à ce qui se dit, c'est que, on voit que c'est Mbappé qui va être aligné en pointe ce soir, alors que il y a un attaquant qui est dans la liste, une liste de 26 quand même, 25 depuis qu'N'Golo Kanté est blessé, et que c'est l'un des seuls à pas avoir connu de minutes avec Ferland Mendy. Donc je trouve ça dommage.
Il est rentré, Ben Yedder. Attention, ouais. Hein, contre le Kazakhstan.
Il est rentré.
Mais ouais, c'est peu. Je trouve que c'est pas le.
Mais comme tous les footballeurs, comme tous les sportifs, comme tous les footballeurs, ils ont besoin de sentir cette confiance. C'est un joueur, il est là. Et il ne sent pas la confiance de son coach. À un moment donné, personnellement, j'ai eu l'occasion de discuter avec Ben Yedder avant qu'il avait encore la possibilité de jouer pour la Tunisie. Et je trouvais dommage parce qu'il aurait pu rendre énormément de services à cette équipe tunisienne. Et il a choisi de jouer de choisir l'équipe de France. Et pertinemment, en faisant ce choix, vu son âge, il savait pertinemment qu'il va avoir beaucoup de problèmes pour rentrer dans le dispositif de Deschamps et les sélectionneurs d'équipe de France.
Non, par rapport à ce que dit Yacine, je suis assez d'accord, mais voilà, on espère que ce soir, en fait, à chaque fois que c'est les matchs amicaux ou des matchs de qualification, comme je disais tout à l'heure, la France, on sait qu'ils sont au-dessus, on aimerait voir juste un peu plus de football, même si on sait que c'est pas le coach qui fait ça, c'est pas dans sa nature. Il a quand même les joueurs pour, il a quand même un énorme vivier.
On joue pas la France, ne joue pas le Brésil, ne joue pas l'Argentine, ne joue pas l'Algérie.
Oui, mais
il joue contre la Bosnie, l'Ukraine.
Oui,
des nations de seconde voire de troisième zone.
Yacine, à Bosnie, il y a quand même Zeko, il y a quand même Pjanic.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Zeko et les Pjanic, depuis qu'ils sont?
La Bosnie est une jeune nation.
Oui.
Qui a connu notamment le mondial 2014,
oui, mais
qui
là,
est souvent en barrage,
qui fait partie
de l'école yougoslave.
Oui, mais je suis une jeune nation. Mais sur le plan sportif, sur le plan comptable, sur le plan, ils ont absolument rien prouvé. Ils ont absolument rien fait. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ogre brésilien ou l'ogre argentin ou toujours l'Allemagne.
Match nul partout dernier match au Stade de France entre la France et la Bosnie.
Mais donc il y a un problème. Quelque part, il y a un problème.
C'est un match piège. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que on sait pertinemment que quand ils vont arriver face à des grosses écuries, le plan de jeu, il est déjà défini. On sait comment il évolue. Ça va faire 8 ans qu'il est là. On sait comment ça fonctionne. Et même dans les clubs précédents, on sait comment il joue. Mais au moins, quand on arrive contre des équipes dites plus faibles ou plus petites, au moins, avec les joueurs que t'as, essaye de proposer quelque chose. En fait, tu peux pas jouer ton plan de jeu sachant que l'équipe, elle te laisse le ballon, et c'est ce que Deschamps n'aime pas avoir. Et en plus, il a une multitude de joueurs, il prend 26 mecs, et j'arrive pas à comprendre comment, en fait, on joue pas bien au football. Ça reste quand même l'équipe de France, c'est une grande nation du foot, et je trouve que voilà, il essaye pas, il tente pas de choses contre ce genre d'équipe-là, et c'est vraiment dommage.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez le souvenir, Abdel, d'un match gagné par l'équipe de France de Deschamps avec la manière? On le sait.
Franchement,
je pose la question.
Ouais, moi, j'ai pas encore le souvenir, hein, le souvenir de cette équipe de France qui pratique un beau football. Je pense que pendant la Coupe du Monde, il y a eu l'exception où il y avait, bon, mis à part son système, ce système tactique où il avait tout verrouillé, il y avait des individualités. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'équipe de France renferme pratiquement les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Donc aujourd'hui, on peut pas. C'est inadmissible de pouvoir faire évoluer de telles individualités de la sorte. Quand on voit l'alarmisme d'une certaine presse hexagonal concernant le prochain match, enfin le match de ce soir contre la Bosnie, je me pose la question. Toutes les nations du monde rêveraient d'avoir un Pogba, un Mbappé, un Griezmann dans leur effectif. Sur le plan défensif, je pense qu'ils ont les meilleurs défenseurs du monde. Au milieu de terrain, quand tu as un N'Golo Kanté, c'est un métronome de ce calibre-là. Alors, quand on parle de l'attaque, excepté peut-être Giroud qui fait c'est l'arrière central qui joue c'est l'avant-centre qui joue arrière central régulièrement dans cette équipe, et il y a un problème, c'est Deschamps.
Non, pour revenir au
même
match,
c'est les champions du monde, hein.
C'est ça.
C'est les champions du monde, beaucoup de gens, mais sur le plan du jeu, non, moi, je suis pas convaincu.
C'est difficile de critiquer Giroud, c'est efficace quand même.
Oui,
très efficace.
On est d'accord.
Très efficace. Il fut une Coupe du Monde en ayant tiré, je pense, zéro fois dans les buts.
C'est vrai qu'il n'a pas marqué.
Non,
il est précieux. Il est précieux dans le jeu.
C'est vrai, non, mais.
Très précieux, exactement.
Le fait que Didier Deschamps ait gagné la Coupe du Monde, c'est vrai que ça c'est l'arbre qui cache un peu la forêt.
Qui l'a gagné.
Oui, non, mais
il faut rectifier. C'est Mbappé qui l'a gagné.
Non, mais
c'est pas Didier Deschamps qui l'a gagné.
Quand Deschamps il arrive à te mettre ce qu'il met en place, tu sais quand même que ça reste un bon entraîneur, et même il a fait de belles choses à chaque fois. Il sait motiver ses équipes, mais par rapport à Didier Deschamps,
à Marseille, oui.
Moi j'ai une critique à émettre sur lui, c'est que c'est pas forcément les 11 qu'il aligne, etc., qui me dérange. C'est plus ses choix en cours de match. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à trouver la solution quand son équipe est en difficulté. Pour moi, il fait pas les bons choix, il fait pas entrer les bons joueurs, et ça, je trouve que c'est dommage. Ça lui dessert un petit peu.
C'est ça la force d'un entraîneur. Quand on va le comparer, par exemple, à son compatriote Zinedine Zidane, qui est entraîneur de Real de Madrid, à chaque fois que le Real est en difficulté, quand on voit le coaching de Zizou, quand il fait rentrer un joueur, souvent il fait la différence. Et c'est pas le cas en équipe de France. Quand on voit les changements de Deschamps, à chaque fois qu'il fait sortir un joueur et fait rentrer un autre, j'ai l'impression qu'il déséquilibre plus son collectif qu'il trouve des correctifs. Donc là, à un moment donné, il faut se dire que, bon, je pense, son mandat, pour moi franchement, il est révolu.
Vous êtes inquiet sur l'équipe de France ou pas? Parce que là, Abdel, tu l'as signalé, là on dispute donc les matchs qualificatifs du Mondial 2022, situation Covid oblige, mais il y a l'Euro qui arrive dans quelques semaines.
Ouais, moi je suis pas forcément inquiet, dans le sens où pour moi, à chaque fois qu'on arrive en compétition, t'es transcendé, t'arrives avec déjà aussi avec un statut. Après, il y a toujours ce risque d'être d'un trop plein, d'un surplus avec ton coach. Peut-être que la méthode ne peut plus passer, mais je pense que avec le groupe qu'ils ont, si t'arrives à faire un doublé, t'es poussé par cette chose-là. Et je pense qu'ils vont être galvanisés. Je suis pas inquiet. Je pense que déjà ils vont sortir du groupe, pas tranquillement, mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils se confrontent à déjà deux belles nations, comme le Portugal et l'Allemagne, de l'Euro. Donc, je pense qu'ils vont se mettre directement dans le ton. Et après, faut voir comment ils évoluent. Mais je suis pas forcément inquiet. Mais faudrait pas non plus que ça dure jusqu'à tant d'années avec Deschamps. Un petit mot avant de laisser Yacine parler. C'est vrai que quand on parle de l'équipe de France, c'est vrai que quand d'un point de vue journalistique, tu regardes un peu, t'es obligé de critiquer. Mais un supporter, quand il a une attache à l'équipe, c'est vrai que peu importe comment l'équipe va jouer, s'il y a du résultat, il y a de l'émotion et qu'elle gagne, tu juges pas la même chose. Donc si t'es un spécialiste et que tu regardes l'équipe de France, forcément tu vas mettre des critiques. Mais si t'es un supporter, tu seras pas aussi dur que si tu dois émettre un avis objectif. C'est la phrase que je voulais ajouter.
Moi, je suis pas inquiet, pour la simple et unique raison, les Fennec sont qualifiés pour les phases finales de la CAN avec l'art et la manière. Et je m'en cache pas, je suis un fidèle et chauvin supporter des Fennec. Après, l'équipe de France, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à assumer leur statut de champion du monde face à l'équipe de la Serbie. S'ils n'arrivent pas à gagner, je pense que c'est le moment de changer.
Merci Yacine, merci Abdel. Un mot, l'équipe de France U21 qui se déplace en Islande, et donc les Bleuets mènent sur le score de 2-0 à la mi-temps grâce à Matteo Guendouzi 17e et Hudson Edouard 38e. Petite réaction avant la pause.
Toujours cette équipe des U21 français qui est qui renferment d'excellentes individualités. C'est souvent elles qui font la différence. Parce que quand on voit aussi la qualité du jeu pratiqué par ces Bleuets, on se pose la question du choix des entraîneurs au niveau de ces catégories.
Allez, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
On embrasse Bilal Nenman qui n'a pas pu être là ce soir. Et on est de retour sur l'émission Sport, Time Sport sur Beurre FM, votre émission quotidienne de 19h à 20h avec mes consultants de ce soir, Yacine Bouali, Abdel, qui ont été particulièrement efficaces sur le sujet de l'équipe de France, Yacine.
Particulièrement efficace. Ou efficacement efficace.
Bon, efficacement efficace.
C'est particulièrement, ça veut dire d'habitude on n'est pas efficace.
Non, ça veut dire que sur ce sujet-là, attention, on a parlé l'équipe de France.
Attention, Claude Tollet.
Non, sur ce sujet-là, on a parlé d'un sujet.
D'accord.
Vous avez été efficace sur le sujet de France.
Particulièrement
maintenant,
sur l'équipe de France.
Mais on attend la suite.
Voilà. On prend le compliment.
On prend le compliment. et on laisse le particulier.
Allez, on enchaîne.
Time Sport.
On a le plaisir d'accueillir notre invité ce soir, Jaradi Majoub, qui est avec nous ce
soir.
Bonsoir,
comment allez-vous ? Bonsoir, ça va, impeccable, merci.
Un vrai plaisir en tout cas. Vous êtes un grand boxeur, un grand champion.
Ouais, c'est gentil, merci.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ben voilà, je m'appelle Majoub Jaradi. Je vais combattre pour la ceinture WBA le 15 juillet contre Moussa Konaté, qui lui-même m'a demandé une revanche.
Donc vous êtes déjà rencontré ?
Oui, c'était le 15 février 2020.
Donc vous l'avez battu ?
Non, c'était match nul.
Et là, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Ouais. Votre combat, ouais. la revanche, ouais. ou sinon un match qui va vous départager ?
Ouais. J'ai l'honneur déjà de vous annoncer que ce combat va être fait en Tunisie.
Il va avoir lieu en Tunisie ?
Oui, en Tunisie, dans le sud tunisien, dans mon village natal.
C'est exceptionnel.
Est-ce que
contexte Covid oblige, est-ce que le public sera présent?
Normalement oui, parce que là on a eu la bonne nouvelle, la Tunisie commence à vacciner depuis 15 jours. Mm-hmm. Et comme on est 11 millions de Tunisiens, nombre d'habitants, ça va aller très vite.
Ça va aller vite.
Ça a augmenté, vous êtes passé de 8 millions à 11 millions déjà?
Non, moi c'est ce que j'ai vu là.
Ah d'accord, c'est 11 millions.
Sur Wikipédia, je sais pas, voilà.
D'accord.
Taux de natalité peut être important.
C'est possible. C'est possible.
Abdel.
Ouais, une question à notre invité.
Je vous en prie.
J'étais déjà là quand il est venu il y a à peu près un an et demi. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé du coup depuis un an et demi, quelles étaient les choses qui s'étaient passées dans votre actualité.
Bah écoutez, moi j'ai perdu ma mère. J'ai fait une dépression sportive.
Mes sincères condoléances.
Donc moi déjà à la base, ça me fait plaisir d'être là, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Bah déjà pour commencer, je voulais rendre hommage à un boxeur qui s'appelle Sofiane Saïfi, qui est décédé hier. Donc toutes mes condoléances à lui et sa famille. Et je voudrais vraiment lui rendre hommage aujourd'hui quoi, sur ce plateau. Quoi. Bon voilà, ça c'est fait. J'ai dû changer de manager. Maintenant, j'ai dû me séparer de mon manager qui m'a abandonné quand ma mère est tombée gravement malade. Donc j'ai une deuxième manager qui m'a pris en main. Elle s'appelle Daniela. Donc je voulais lui rendre hommage parce que c'est vraiment une femme très bien. Donc elle s'occupe de ma carrière et je voulais lui dire merci. Je voulais aussi dire une chose. Bah, mon ancien manager, qui s'appelle Enzo Rossi, vaut mieux pas que je le croise, parce que si je l'attrape, je vais lui péter la gueule.
Ah, oula.
Donc il est au courant, il le saura maintenant.
Y a pas pour quelle raison, hein, justement?
Bah, écoutez, moi, ma mère, elle est tombée malade, il m'a abandonné. Je devais toucher des sponsors pour le combat. Donc plus de nouvelles, plus rien du tout. Bon, après, moi, c'est pas pour l'argent, parce que j'étais aussi son garde du corps. Voilà, j'étais aussi son garde du corps. Donc moi, je l'ai protégé, je l'ai aidé. Et quand je vois le remerciement, vaut mieux pas que je retombe sur lui. Maintenant, je pense que le message, il sera passé. Voilà. Officiellement, je m'entraîne à la Conatim. Bon, comme il y a des problèmes sanitaires, le club de Villiers-sur-Marne a dû fermer. Donc, j'ai réussi à m'entraîner dans un autre club qui s'appelle le Tech Gym, à Meaux. D'ailleurs, il y a un très grand champion qui boxe là-bas, c'est Momo Tech. Voilà. Donc, c'est mon petit cousin. Je suis fier de lui, qui est champion du monde aussi.
Que l'on salue.
Voilà. J'ai la chance aussi... Et à Monsieur Abel El Kandili, je voudrais lui rendre hommage aussi, parce que c'est un grand entraîneur. La famille El Kandili, c'est une famille qui est très connue. Donc voilà, je voulais vraiment le remercier parce qu'il m'a pris en main comme un frère. Il m'aide, il m'entraîne. Aussi rendre hommage aussi à ses boxeurs, les frères Tafarez. Voilà, deux grands champions. Je voulais faire coucou à Mathieu parce que c'est mon ami, on s'entraîne ensemble, j'aime beaucoup, il est gentil.
On le fait coucou lui aussi.
Voilà, lui aussi à tout le monde. Donc voilà quoi, à la limite je demande aussi si beaucoup de gens veulent aller s'entraîner au Tech Gym Boxing, parce que c'est vraiment un grand club avec un grand entraîneur. les grands champions. Il y a des grands boxeurs comme Zakaria. Je voulais lui faire une dédicace parce que j'avais promis, il va être content. Donc voilà, big respect pour Zak. Voilà. Donc le combat a été signé. Oui, je vous en prie.
Juste, il faut préciser, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 46 ans.
Et qu'est-ce qui fait que vous, cette longévité, tout en sachant l'exigence de la compétition de très haut niveau, comment vous arrivez à gérer votre hygiène quotidienne ?
Bah écoutez, moi je vais vous dire, moi j'ai 30 ans de boxe, de boxe. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de... Moi, ce qui m'a attristé, je suis content d'être là parce que je voulais le dire. Moi, quand j'ai perdu ma mère, il y a beaucoup de boxeurs qui m'ont critiqué en disant lui, il ne le connaît pas, comment ça se fait que du jour au lendemain, il est connu ou... Moi, ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal.
C'est-à-dire, vous estimez qu'il y a eu de la jalousie de la part de boxeurs ?
C'est même pas de jalousie, c'est que moi j'étais en deuil. J'ai pas entendu des conneries pareilles.
Parce qu'on entendait parler de vous, donc tout de suite.
Voilà. J'ai vraiment pas aimé. Alors maintenant, moi je suis en direct pour le dire. S'il y a des boxeurs qui ont des choses à me dire ou à me reprocher, qui viennent chez moi, au 4 Terre, rue Rossini, à Épinay-sous-Seine, on s'expliquera. Tout simplement. Voilà. Parce que moi j'ai 30 ans de boxe. Voilà. Vous allez voir Fabrice Binichou, dites-lui c'est qui Jaradi. Allez voir Ali Sadok, il vous dira qui je suis. Allez voir Kader Marouf, il vous dira qui je suis. Voilà. Allez voir des grands entraîneurs qui m'ont pris en main, qui me connaissent. Allez même voir Fabrice Binichou, qui est un ami à moi, il vous dira qui je suis.
La preuve, si vous êtes vice-champion du monde version WBC, c'est...
On ne voit pas la ceinture, mais il faut le dire, il est venu avec une belle ceinture.
Très très belle
on ceinture. On la mettra sur les réseaux sociaux.
Non, même à ce niveau-là, je voulais même dire une chose. Même à Moussa, moi ça me fait rire, même à Moussa Konaté, le champion, vous lui parlez de moi, il vous dira qui je suis. Moi, j'ai rien à cacher à personne.
Donc voilà. De toute façon, les images.
Non, parce existent. Que moi, ça m'a fait mal. Les boxeurs, les histoires de caca-culottes, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Et je le dis, excusez-moi, je le dis avec le plus grand sang-froid olympique. Voilà, moi, je suis quelqu'un de calme, mais je dégage quand même 220 kg force pression sur un coup. J'ai pas envie de m'énerver. Donc, s'il y a des choses qui plaisent pas aux gens ou qui veulent pas savoir qui je suis ou ça plaît pas à qui que ce soit, qui viennent me le dire en face. En attendant, il y a qu'un champion, c'est moi. S'ils veulent venir prendre ma ceinture, ils ont des choses à me dire, qu'ils me le disent.
Moi, je comprends tout à
parce
fait.
Que moi, ça me fatigue, les histoires de caca-culottes. Je veux bien être gentil, je veux bien faire le clown, je veux bien rigoler. Bon, j'ai été sympa la dernière fois, maintenant ça va, ces histoires. S'il y a des choses qu'il y a à me dire, venez les mecs, on s'explique, il n'y a pas de problème.
Alors,
critiquer derrière les réseaux sociaux, les histoires de réseaux sociaux, ça m'intéresse pas.
Justement, j'aimerais réagir par rapport à ça. Concentrez-vous sur votre combat que vous allez mener.
Parce que moi, il y a des choses que je vais vous expliquer. Moussa Konaté, il a été champion du monde. Personne n'a voulu l'affronter pendant 4 ans. Personne n'a voulu l'affronter pendant 4 ans. Moi, le jour qu'on me l'a proposé, j'ai pas baissé mon short, moi j'ai accepté. Tout le monde était là, même j'étais à Beurre FM, j'ai fait l'interview, j'ai fait ce qu'elle va faire. J'ai pas baissé ma culotte. Voilà. Maintenant, ce combat-là, je l'ai perdu parce que j'étais un peu en deuil, j'étais pas bien.
Mon cher Claude, parlons des réseaux sociaux. Il faut savoir, d'après M. Jaradi, apparemment, il a 2 millions de personnes qui le suivent sur YouTube.
Sur une vidéo que j'ai mise sur un... Oui, je suis même YouTuber.
Ah d'accord, vous êtes YouTuber.
Voilà. Okay. J'ai mis un coup de pompe sur un poteau. C'est pour ça que d'ailleurs, on m'a surnommé l'homme à la jambe de fer. Voilà, petit bien de fer et de feu, c'est mon surnom. Mais il n'y a pas que ça. On m'a surnommé droite poison. On m'a surnommé l'encasseur de Boston. Voilà, on m'a surnommé le...
Mais concrètement, aujourd'hui, pour la préparation de votre combat contre Konaté dans votre village, comment ça se passe?
Dans mon village, comment ça se passe?
Non, ça se passe pour vous, maintenant, la préparation.
Écoutez, là c'est dommage, je me suis entraîné un mois au Tech Gym Boxing. Donc je me suis très bien entraîné avec Abel El Kandili, un grand entraîneur que je remercie. Maintenant je fais mon entraînement quotidien, tout seul. Parce que j'ai toujours... moi à la base je m'entraîne de 8 à 15 heures par semaine en sport intensif. Poids halter, traction, sac de frappe, shadow boxing, tout ce qu'il faut pour y aller.
En tout cas, vous comprenez bien. Alors, on comprend en tout cas cela. Maintenant, nous, sur Beurre FM, nous, tout ce que l'on veut, c'est que vous êtes là. Ça nous fait plaisir.
Non, moi aussi, je suis là parce que je voulais juste m'adresser.
Il y a aucun problème. Mais voilà, nous, en tout cas, on opte pour ce combat. Je pense que l'énergie. Moi, si on a un conseil à vous donner au nom de Beurre FM, c'est de vous concentrer sur ce.
Non, je me concentre. Mais parce que je voulais dire, c'est pas des amateurs du dimanche matin qui vont m'apprendre à moi à boxer.
Et ben justement.
Parce que moi, quand je boxais le samedi soir et que je ramenais de l'argent, ils attendaient leur goûter chez leur maman à 16h30. Donc, remettre les choses un peu dans le contexte.
Justement, la réponse, vous l'avez justement.
Donc, on passera sur le ring jamais. J'aurais dit, moi, j'ai une question.
Oui, bien sûr.
Vous avez parlé de la Konateam, justement, et de Moussa Konaté. Vous vous entraînez encore avec eux, c'est ça?
Oui, je suis licencié.
l'heure actuelle. D'accord, vous êtes licencié et qu'est-ce qui fait que vous combattez quelqu'un qui est dans le même centre que vous?
Bah écoutez, moi, à la base, quand j'ai fait la vidéo sur YouTube et que j'ai fait 2 millions de vues, on m'a proposé de combattre un gars-là, qui est de la Conatim. Okay. Moi, j'ai accepté. Dans ce gars-là, la chance qu'il y a eu, c'est que la personne qui devait me rencontrer a annulé le combat, et que Moussa Konaté, la personne, devait faire ce combat, l'a annulé aussi. Donc moi, la dernière minute, vous savez, comme un gars de boxe, ça se prépare 6 mois à l'avance, moi, la dernière minute, on m'a dit, écoute, si ça dure, on peut te proposer Moussa Konaté pour le combat. Moi, j'ai dit oui, ils m'ont dit oui, tu connais les risques. J'ai dit, mais moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai accepté, j'ai signé, j'ai fait le combat, j'ai pas baissé mon short ou quoi que ce soit. Alors moi, c'est pour dire les gens qui me critiquent maintenant. Moussa Konaté, il est resté 4 ans invaincu, personne ne voulait l'affronter. Le jour où on me l'a proposé, moi, je l'ai accepté. Et aujourd'hui, tout le monde dit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Faut un peu respecter les anciens. Moi, je suis pas content à ce niveau-là. S'il y a des gens que j'ai choses à dire, qui veulent me le dire, mais vous le verrez jamais. Je vous le dis. Parce que ces gens-là, ils ont peur de moi.
L'important, c'est qu'on vous a ce soir sur Télésport, sur Beurre FM.
Il n'y a pas de souci.
L'important, c'est que les réseaux sociaux, etc., on sait comment ça se passe sur différents types d'activités. Nous, ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, c'est le ring, c'est ce combat, c'est cette revanche, justement, dans notre petit village.
C'est facile de critiquer quelqu'un qui a perdu sa mère. C'est très facile de faire du pia-pia-pia. C'est très facile, ça.
Jaradi, tu vas remonter sur le ring justement pour une revanche. Il y a eu match nul lors de la dernière confrontation. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont tes entraînements justement pour toi aller chercher une victoire lors de cette revanche contre Moussa Konaté?
Bah écoutez, ça va être déjà un défi très difficile parce que Moussa Konaté, il a été 4 fois champion du monde, 10 fois champion d'Europe, 10 fois champion de France. Il a plus de 200 combats à son... Voilà, on l'a tellement fort qu'on l'a surnommé le marabout des rings d'ailleurs. Voilà. Moi, j'ai toujours senti qu'au fond de moi, que je pouvais le battre. Voilà. Ou dans ce cas-là, quand je prends un combat...
Quelle est cette force qui vous dit que vous allez le battre?
Cette force, c'est que...
Vous la tenez d'où?
Pour moi, c'est le dernier obstacle. C'est le dernier obstacle. Si je bats Moussa Konaté, je rentre dans la légende. Même quand je mourrai, demain, on me laissera mon nom.
D'accord.
C'est ça qui est plus important.
Et sans être indiscret, est-ce qu'on peut connaître votre palmarès?
Moi? Mais écoutez, moi,
combien de combats vous avez fait, victoire,
déjà, je vous explique ma carrière professionnelle. J'ai 15 ans de boxe thaïlandaise. J'ai 5 ans de boxe anglaise. Et j'ai pratiquement 6-7 ans de MMA.
Dans tout ça, combien de combats?
Dans le combat, moi, c'est simple, j'ai fait dans les 73 combats.
Combien de victoires? Combien de défaites?
J'ai fait dans les... Si j'ai bonne mémoire, c'est dans les... Ouais, 62-63 victoires. 62-63 victoires.
Et combien de défaites?
C'est pas mal, hein.
Ouais, beaucoup, ouais.
C'est bien.
C'est
un beau parcours, un beau palmarès.
Abdel, il se bat contre lui-même dans la chambre, il gagne même pas. Donc,
c'est ça, je me mets des coups. Ouais. Mais j'aurais dit, justement, vous dites que c'est l'ultime obstacle. Est-ce que, après, si jamais il y a une victoire et on vous le souhaite, est-ce que ce sera le temps de ranger les gants ou vous continuerez, vous aurez d'autres objectifs à vous fixer? Comment vous voyez la chose si jamais une victoire?
Nous, on en a parlé avec Moussa. On a fait ce premier combat, on a fait match nul. Voilà. Moi, il m'a demandé une revanche. Moi, j'ai accepté cette revanche. Et la dernière fois, pour rigoler, je lui ai dit, si jamais je te bats, si jamais j'ai la chance de te battre...
Non, il vous a pas proposé la revanche, c'est la belle. Hein. C'est la belle.
Non.
Vous avez fait match nul.
Non, on a fait match... Moi, je lui dis honnêtement, je lui ai dit devant tout le monde, c'est lui qui m'a proposé la revanche. Il m'a dit, voilà, je veux qu'on fasse la revanche.
Il n'y a pas de problème.
Moi, je lui ai dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, je l'accepte. Et justement, je lui ai dit, si j'aurai la chance de gagner, moi, j'accepterai le troisième match. On n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore. Moi, c'est la dernière ligne droite. S'il faut que je termine à l'hôpital gravement ou que j'en meure, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout.
Maintenant, vous êtes décidé.
Ouais, je suis décidé.
Déterminé là, on voit quelqu'un déterminé avec nous en plateau. Il y a du peps là autour du plateau.
On est deux combattants, on n'est pas dans les. Moussa, c'est plutôt un styliste. Voilà. Moi, je suis plutôt un puncher. Voilà. Donc, on est dans deux styles de combattants différents.
Vous avez 46 ans, qu'est-ce qui vous illumine à ce point de monter sur les rings, de vous battre? Ça sort d'où tout ça?
Moi, mon idéologie, c'est que j'ai envie de laisser un nom derrière moi. J'ai envie de laisser un nom derrière moi. J'en fais pas, c'est quelque chose qui... J'ai pas envie de mourir et qu'on m'oublie. Voilà, je vous laisse un nom derrière moi.
Un nom comme qui? Parce que là, on voit que vous avez un beau t-shirt Mohamed Ali, mais c'est une légende de la boxe. Ouais. Qui vous a inspiré comme boxeur, justement, même si c'est pas quelqu'un de votre discipline, forcément, mais dans les arts martiaux?
Vous savez, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plutôt personnel. Voilà. C'est plutôt moi. Je me bats pour être quelqu'un. Et je vois qu'apparemment ça dérange beaucoup de gens.
Ouais, mais justement, si ça dérange, ouais. Ça veut dire que vous avez prouvé des choses, que vous avez montré, que peut-être les gens sont pas forcément craintifs, mais se disent, Jarabi, on va parler de lui, on va peut-être le titiller, mais parce que il a un nom, il est peut-être au-dessus de nous, et vous le voyez pas comme ça, j'ai l'impression, mais faudrait peut-être le voir de cet œil, en tout cas pour moi.
Ah ouais, mais le problème, c'est que eux, ils ont pas compris. Eux, ils font de la boxe, mais ils croient que la boxe, c'est une SARL qui se trouve à 100 mètres de chez eux. La boxe, c'est une passion. Voilà. Moi, j'ai boxé en Hollande. Je prenais le TGV, j'allais en Hollande. J'ai bossé 5 ans à Marseille. J'ai été me frotter aux boxeurs du Sud. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre des boxeurs du Nord. Je vais aller me frotter aux boxeurs du Sud. Donc, moi, j'ai voyagé. J'ai vu ce que c'était un peu, tout ça. Alors, quand on veut vraiment devenir un champion, faut se donner les moyens.
Mais
il faut aller côtoyer les plus grands.
Justement, vous savez, voilà, vous nous donnez la preuve que vous avez effectué pas mal de choses que les autres ne sont pas capables de faire. Et ben restez à votre niveau. Concentrez-vous sur votre combat. Concentrez-vous. Vous le savez. Vous le savez au fond de vous.
Claude. J'ai de l'hypocrisie.
Moi, j'aimerais bien dire à notre ami Gérardi, tout à l'heure, on en discutait en off, il m'a dit que la boxe, c'est-à-dire ça vous rendait énormément service dans votre vie de tous les jours, de pouvoir vous épanouir en tant que personne. Et je pense qu'à un moment donné, il a eu des moments de colère, mais je pense que le sport en lui-même, ça véhicule d'autres valeurs.
Ouais, bien sûr.
C'est de la fraternité, c'est de l'amitié. Ah, ouais. Voilà, donc à un moment donné, je pense que ces mots ont dépassé ses pensées. Ouais. Voilà, donc
moi je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il était en colère un petit peu, mais je pense qu'on le sent plus serein maintenant.
Moi je suis tout à fait d'accord avec vous parce que moi j'ai combattu pour des œuvres de charité, j'ai combattu pour des associations d'handicapés, j'ai combattu pour des télétons. Donc voilà, moi j'ai toujours été dans la valeur et dans le respect de ce sport.
C'est le Gérardi qu'on aime bien.
C'est ce que j'allais dire.
Moi un frère de boxe, c'est un frère de boxe. Je vais pas critiquer un frère de boxe parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, ou parce qu'il gagne de l'argent, ou parce qu'il est jaloux. Moi j'ai jamais envié personne.
Malheureusement, j'aurais dit, lorsqu'on est bon, lorsqu'on laisse une empreinte, parce que je pense que vous en laissez une, il y aura toujours.
On attise les critiques.
Il y aura toujours les critiques de la jalousie. Il faut passer au-dessus.
Moi, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Oui. J'ai jamais été dans la critique d'un adversaire ou d'une personne quiconque dans la vie ou envier.
Comprend.
Moi, j'envie personne, moi.
Mais ça se voit que notre ami Gérardi, c'est quelqu'un qui a un grand cœur.
Voilà. Voilà.
Jaradi, ils avaient un petit bonjour de Kamel Aïdkera qui vous passe le bonjour.
Voilà. Il dit le grand bonjour.
Voilà, un grand bonjour. Donc voilà. Salut. Là, on parle des gens qui soutiennent pas, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur.
Donc,
effectivement.
Il y a des gens qui soutiennent.
Voilà, il y a des gens qui aiment et qui respectent le parcours de Jaradi.
Ça nous fait plaisir de le recevoir aussi sur le plateau.
Totalement, avec plaisir, Jaradi.
Allez, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
On se retrouve pour la dernière partie de Time Sport sur Beurre FM, votre émission sport quotidienne de 19h à 20h avec Abdel, avec Yacine, avec notre invité également qui était là. En tout cas, très belle interview.
Ouais, je vous remercie.
Ah, mais bien sûr, on passe à la suite.
Time Sport, la victoire.
C'est gentil, pas trop.
Yacine, qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Je voulais rajouter que à notre ami Gérardi, que même s'il y a des critiques sur les réseaux sociaux, c'est la mode d'aujourd'hui. Mais derrière, il y a des gens qui l'apprécient, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'encouragent, et il y a des gens qui le supportent, il y a des gens qui le suivent. Voilà, s'il a fait une vidéo, il a eu 2 millions de personnes qui l'ont regardé.
C'est pas rien.
C'est pas rien du tout.
C'est pas rien.
Donc voilà, donc dans son discours de début d'émission, je pense que ses paroles ont dépensé ses pensées parce que on sent quelqu'un qui a un énorme cœur.
Comme l'a dit Yacine, les bonnes énergies, toujours garder les bonnes énergies pour
autour de soi,
pour avancer. On revient sur du football. La Belgique et les Pays-Bas sont-ils plus puissants, plus intéressants, plus forts, tout simplement? Que nos bleus?
Ah ben aujourd'hui oui. Aujourd'hui oui.
Et pourquoi?
La Belgique oui. La Hollande, quand on voit comment ils se sont fait exploser par les Turcs lors du premier match, le deuxième match ils se sont rattrapés. Mais par contre les Belges, je les sens beaucoup plus forts que les Français. Ils sont dans une stabilité.
À quel niveau Yacine?
À quel niveau du jeu? Le jeu pratiqué par les Belges ou les Hollandais, même quand ils ont perdu contre les Turcs, on sentait qu'il y avait toujours cette volonté d'attaquer, de faire le jeu. C'est pas le cas des Français.
On entend dire, tu nous disais que la France avait quasiment les meilleurs joueurs à chaque poste. Pourquoi la Belgique est meilleure?
Parce qu'ils ont de meilleurs entraîneurs. tout simplement.
Non, moi, pour moi, ils sont pas au-dessus de la France pour la simple et bonne raison que on doit se focaliser sur les compétitions internationales pour moi et les grosses échéances pour juger les équipes. Il y a plein d'équipes qu'on aurait pu rajouter comme l'Angleterre notamment qui font de grosses qualifications qui étrient tout le monde et malheureusement arriver en compétition officielle ça devient compliqué. Après c'est vrai que il y a Didier Deschamps si on reparle de la France pour faire le comparatif qui a son style de jeu. Des équipes comme la Belgique ou même les Pays-Bas, parce que c'est celles dont on parle, peuvent arriver à leur fin par le jeu, mais je pense qu'il manque encore un peu d'expérience à ces équipes qui reviennent bien, notamment la Hollande qui ont un gros vivier. Après la Belgique, c'est vrai qu'en 2018 ils ont pas eu de chance. C'est vrai que par le jeu ils ont fait la différence. Là, il y a 3 ans d'expérience prise par cette équipe-là. Ils sont peut-être bien, même s'il y a Hazard. Je pense que peut leur manquer dans cet effectif.
Ouais, ça m'étonnerait que leur manque parce qu'ils viennent d'étrier la Biélorussie avec quand même un score fleuve de 8-0.
Non, mais dans les grandes compétitions, t'es d'accord, Yacine?
Là, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui.
Oui, on parle d'aujourd'hui, mais
beaucoup de choses peuvent changer. N'oublie pas que la Belgique, c'était lors du Mondial 2018 et qu'ils ont la demi-finale qu'ils ont perdue contre la France. Jamais ils l'auraient perdu. Ils étaient dominateurs. Ils ont jamais eu que la France. Ils auraient mérité. Peut-être il y a eu quelques flottements qui ont fait que le match a basculé, mais moi je trouve pas que la France est meilleure que la Belgique.
Éternel perdant est Belgique, un peu comme les Pays-Bas, souvent 3e, 4e, lorsqu'il y a de grosses générations, on l'avait vu en 86.
Je pense que cette génération, c'est pour moi, peut-être c'est la meilleure génération belge, oui.
Mais certainement. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est des équipes qui ont souvent été proches du but sans jamais forcément l'atteindre, mais quand je réponds à Yacine par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai qu'on parle à l'instant T, mais pour moi, on est capable d'évaluer les équipes et de se projeter dans le sens où pour moi, quand la question que tu poses Claude, j'essaye de les voir en situation dans les grandes compétitions et pour moi, ils sont pas encore prêts à passer ce cap-là et je pense que ça va être difficile. Après, dans l'avenir, ils pourront venir bousculer, comme ça a été dit, et même la Belgique, c'est la meilleure génération qu'ils ont eue, je rejoins Yacine dessus. Mais pour moi, ils sont pas encore prêts, ils sont pas au-dessus de la France, et ça va être compliqué cette année.
Et les Pays-Bas, ils ont aussi gagné, je pense qu'ils se sont passés le mot avec la Belgique. Ils ont battu aujourd'hui Gibraltar par 7-0.
Ouais. Ils ont accéléré la machine.
Donc là, la différence, elle se fait là. Aujourd'hui, la France.
Grosse équipe, Yacine, de Gibraltar. Est-ce qu'il y avait une grosse équipe?
J'ai vu quelques. Franchement, ça commence. Il commence vraiment à
essayer de se structurer.
À se structurer. Bah, c'est un petit pays, hein, mais bon, il est situé entre l'Espagne et le Maroc. Et à un moment donné, je pense qu'ils vont finir par trouver la bonne formule entre le mix des deux footballs. Je pense qu'ils pourront de temps en temps chambouler les grandes nations. Hein.
C'est un peu comme le Luxembourg hier qui a mis un peu en difficulté le Portugal.
Luxembourg, ils sont en train de carrément de.
Luxembourg a franchi une
bonne colonie capverdienne qui est venue aussi, qui a permis de créer une belle petite équipe.
Ils ont franchi un autre cap comme le Luxembourg.
Ouais. Ils vont le franchir parce que quand on connaît le. C'est une parenthèse du football luxembourgeois. Quand on connaît ce qui se fait aujourd'hui au niveau des centres de formation là-bas, et en plus, hein, ils sont restés un petit peu fermés sur, on va dire, tout ce qui est immigration qui vient d'Afrique, soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord. Le jour où on verra beaucoup plus de joueurs d'origine de ces pays-là, Luxembourg va franchir vraiment un énorme palier parce que sur le plan financiers, je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir monter une grande équipe. Il faut juste de la réflexion. Je pense aujourd'hui c'est ce qui leur manque, c'est une réflexion à moyen et à long terme parce qu'ils sont situés géographiquement entre le football allemand, le football français, le football hollandais, le football belge. C'est là, ils n'arrivent pas à récupérer toutes des fois les petites pépites en déperdition. Il faut savoir que Pjanic, il a été formé au Luxembourg avant de venir au FC Metz. Donc ces pays-là, Gibraltar, beaucoup d'autres pays, hein, ils vont finir à un moment donné, Andorre, Île-Féroé, quand même, ça fait des années, à un moment donné, ils ont réussi à faire quelques bribes de résultats, mais les dernières années, ça a été un peu le flop, mais c'est juste ces pays-là qui ont c'est l'Espagne, hein, Andorre ou Gibraltar. Et à un moment donné, peut-être ils vont avoir des joueurs qui vont jouer dans la Liga, ils vont relever leur niveau. Mais on va rester un petit peu sur, sur l'actualité entre la France, la Belgique et la Hollande. Aujourd'hui, la France est en troisième position par rapport à ces pays.
Pour rester justement sur la France, il y avait donc le match entre les U21 qui se dépassait en Islande, justement, à côté, si je me trompe pas, des Féroé. Victoire, donc 2-0, des buts de Guendouzi, 17e, Edouard, 38e. Ils ont fait le boulot, les Bleuets.
Ouais, rendez-vous pour les quarts de finale le fin mai, pour voir si...
Je sens Abdel, il n'est pas très...
Si, j'ai...
Pas très... il parle avec un peu de...
Non, j'aime bien suivre... J'aime bien suivre cette équipe parce que je pense que... Elle procure entre guillemets plus de plaisir que l'équipe de France a, comme je disais au début de mon intervention. Mais voilà, c'est à suivre. Il y a beaucoup de talent. Toi aussi, tu l'as souligné tout à l'heure. Donc à voir. Je pense que là, ils ont fait le boulot et ils vont se confronter aux meilleures équipes aux meilleurs joueurs de leur âge en mai.
Et rappelez-vous, dans ces équipes de U21, dans quelques mois ou un an au maximum, on va retrouver beaucoup de joueurs qui ont joué pour la France dans des sélections africaines.
J'espère que tu parles d'Amine Gouiri.
Hein?
J'espère que tu parles d'Amine Gouiri.
Ben, il n'y a pas qu'Amine Gouiri, il y a Abdou Diallo du PSG qui a fêté sa
première section
avec le Sénégal. Il y a Camara, Aboubakar Camara avec la Mauritanie. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le but victorieux de la Mauritanie contre. J'ai un trou de mémoire. Et c'est l'apport que peuvent apporter ces joueurs à leur nation d'origine.
Le mode pressing!
Time Sport, le mode pressing.
Un mot de tennis, les amis. Est-ce la fin de carrière pour notre joueur français, Benoît Paire?
La question, c'est est-ce que sa carrière a déjà commencé? Parce que.
C'est vert!
Non, c'est pas sévère. Je reconnais les qualités du joueur. Pour moi, il a des grosses qualités, notamment au coup droit et j'en passe. Mais son caractère a fait passer ses bonnes prestations par rapport à. A fait passer ses prestations en fait derrière en fait. Donc on le parle de lui pour ses frasques, mais pas forcément pour son tennis. Et justement, il aurait dû être la relève, et je dis bien la relève entre guillemets, de joueurs comme mon fils, comme Tsonga.
Talent gâché.
Ouais, pas talent gâché parce que c'est un grand mot pour moi, mais il y a des joueurs aujourd'hui comme je l'ai cité, Tsonga, mon fils ou autres. On parle encore d'eux, on les attend encore eux.
Mais qu'est-ce qui pêche dans le tennis français, Abdel?
Je sais pas, c'est peut-être la formation, peut-être qu'on n'est pas assez déterminé à un moment donné. Je pense que, comme dans tous les sports, on dit souvent que la France manque pas d'envie, mais on n'arrive pas à se donner à 3000% tout le temps.
C'est pas question d'envie.
Non, mais je pense que...
Il va faire à un moment donné, il a bien rempli son compte.
Oui,
son compte,
non mais...
La valeur de tous ces gains avoisine un petit peu les 8,5 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour lui de prendre sa retraite.
Non, il s'est rempli les poches, c'est vrai, mais je pense que quand même, quand tu joues au tennis de haut niveau, tu peux avoir quelques espérances, pas tout le temps remporter des grands chelems ou des tournois, mais au moins montrer bonne figure parce que t'as des gens qui tuent. C'est un bon joueur qui peut se placer dans un bon classement ATP, mais il le fait pas.
Allez, le mot de la fin, en tout cas, on remercie nos consultants Abdel Yassine et notre invité Jared Imajoub pour clôturer cette émission de Time Sport.
Bah écoutez, je vous remercie infiniment. Bah, j'ai juste deux, trois petites choses à rajouter. Je voulais remercier mon entraîneur, Eddy Ben Khaled, la personne qui va s'occuper du gala et du combat, l'organisateur. Donc je tenais vraiment à le remercier infiniment. Je voulais faire une dédicace à Loué Abdel Samad, un boxeur de chez nous. Et à ma sœur Eger Bougnessa, qui est en Tunisie. Puis voilà, en espérant que ça se passera bien. J'avais aussi deux, trois petites dédicaces à faire, vite fait, bien fait. Ben voilà, je voulais aussi faire une petite dédicace à mon papa Chivan et à sa maman Nono. Voilà, à Elmi, mon cousin, à Eddy, à Karim Pacino. Un peu à tout le monde, quoi. Dire à tout le monde que tous ces gens-là, j'ai
ouais, fait. Ce sont les bonnes énergies, genre, voilà. Ce sont ces personnes-là qui
sur qui il faut s'appuyer. Ouais.
Exactement.
Puis aussi une famille.
C'est là qu'on pioche les bonnes énergies, les bonnes ondes.
Puis, j'avais aussi une dernière chose, voilà. Parce que je soutenais une amie à moi, qui est mannequin, qui s'appelle Elisabeth Valette. Elle se présente pour le concours de Madame France. Elle tient une e-boutique. Elle est mannequin professionnel. Donc les filles, soyez un peu solidaires pour elle, votez un peu pour elle,
yes.
C'est très gentil quoi.
Le meilleur pour elle. Merci, femme, voilà, merci Jaradi en tout cas.
Et votez tous pour Elisabeth.
Votez tous pour Elisabeth. Merci Abdel, merci Yacine, merci Anissa.
Votez tous pour Elisabeth.
Votez tous pour Elisabeth. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.
Ciao.
Retrouvez Timesport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.